position en indiquant son intérêt sur cette opération et souhaite étudier avec la ville plusieurs scénarios avec leurs équilibres financiers. Donc, concernant le suivi financier, il n'y a aucun acte de cession-acquisition de l'EPF en 2021 et les comptes au 31-12-2021 vous sont présentés donc, dans le tableau qui suit. Avec les montants hors taxes et les dépenses à 532 671,02, les montants hors taxes recettes 16 706,98, c'est donc un solde financier à 515 964,04. Le détail hors taxes des dépenses mandatées au 31-12-2021 avec études générales et stratégiques 1 250 €, maîtrise foncière 497 822,12, des travaux 13 043,45 et frais de gestion 20 555,45. Le détail hors taxe des recettes titrées au 31-12-2021, produit réel de cession à zéro, ainsi que les subventions minoration comptabilisées, et donc produit de gestion, loyer et charges titrées donc à 16 706,98. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver ce rapport de l'EPF relatif à cette convention.
Est-ce que vous avez des questions sur cette opération qui est importante? Sur l'acquisition par la maison familiale, on est de l'ordre de 65 000 €. Le problème de la bijouterie Laval, c'est le fait qu'on n'ait pas d'accès aux appartements, oui, sauf en passant par la boutique. Donc ça, c'est typique de plusieurs de nos boutiques de centre-ville.
C'est ce qui complique aussi.
Il va falloir trouver une solution. Sur l'îlot Carnot, on a toujours cet obstacle de la tête d'îlot, qui est constituée de la pharmacie et des deux bâtiments qui font le coin, qui ont été rénovés il y a très peu de temps, donc qui coûtent cher, et qui en plus, pour l'architecte des bâtiments de France, étant... représentant les anciennes murailles de la ville de Guéret, ont un intérêt patrimonial. Et donc, l'architecte des bâtiments de France s'oppose à ce qu'on l'abatte. Et s'il faut acheter la tête du lot pour valoriser le tout, c'est très cher parce qu'elle est en très bon état. Donc, on est sur un casse-tête, là, sur cet îlot Carnot, mais il y a quand même des pistes qui s'ouvrent. Et la Banque des Territoires a engagé fortement la CLI à s'engager sur ce projet parce qu'ils n'ont pas de projet sur la Creuse. Et ils souhaiteraient que l'îlot Carnot soit leur projet creusois. Donc, ils sont très proactifs et j'espère que ça va donner de bons résultats. Voilà, puis dire aussi qu'en 2024, on sera en fin de contrat avec l'EPF, mais on peut négocier une prolongation si on avait un projet qui commençait à se dessiner. Est-ce que vous avez des questions ou des demandes de précision? Bien, donc je vous demande d'approuver ce rapport. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Madame Tonduf, le conventionnel Huguet.
Oui, donc l'îlot conventionnel Huguet, donc avec un dépôt de dossier d'éligibilité RHI et demande de financement des études auprès de l'ANA. Donc la ville de Guéret met en place depuis de nombreuses années un projet de requalification de son centre-ville avec des interventions coordonnées sur les espaces publics, la redynamisation commerciale, le renforcement de l'offre d'équipement et la réhabilitation du parc de logements privés. Donc elle a signé le 14 janvier 2021 une convention d'OPARU avec l'ANA, l'État, la communauté d'agglos du Grand Guéret et d'autres partenaires institutionnels. Cette convention met l'accent sur la lutte contre l'habitat indigne. Elle prévoit en particulier une intervention ciblée sur les secteurs les plus dégradés du centre-ville. Donc l'îlot conventionnel Huguet est identifié dans le cadre de l'étude préopérationnelle comme un secteur stratégique compte rendu de sa localisation. L'ensemble immobilier comporte en effet un immeuble en très mauvais état, présentant un danger pour la sécurité des passants. Depuis la réalisation de cette étude, l'immeuble situé aux 4 rues conventionnelles Huguet à l'angle de la place s'est fortement dégradé, ce qui a conduit la ville à engager des procédures avec arrêté de péril imminent, puis ordinaire et une interdiction définitive d'habiter en août 2021. Compte tenu de l'état de dégradation de l'ensemble immobilier, mais aussi de son caractère stratégique, seule une intervention publique permettra de réaliser les travaux nécessaires à la démolition et ou à la reconstruction partielle de l'immeuble et à la valorisation du reste de l'emprise foncière. De plus, cette action marquera la volonté de la municipalité d'intervenir fortement sur les aménagements du centre ancien. En conséquence, la parcelle BD226 est en cours d'acquisition par la ville afin de réaliser sur l'îlot une opération publique. Selon les conclusions des études de structure, il pourrait être envisagé une démolition totale et prendre les mesures qui s'imposent pour conforter l'immeuble mitoyen avec reconstitution de l'offre de logement dans le projet de l'îlot Carnot ou une démolition partielle avec reconstruction ou réhabilitation d'un bâtiment aux dimensions plus réduites. La commune a missionné donc le groupement de bureaux d'études Le Creuset Méditerranée sur l'IA Limousin afin d'apprécier la capacité de renouvellement de l'îlot. Cette opération permettra de valoriser l'ensemble de l'espace public conventionnel Huguet et le présidial. Elle pourra être réalisée avec les aides financières de l'ANA dans le cadre du dispositif de financement de la résorption de l'habitat insalubre et dangereux, dispositif arachi. Le Creuset Méditerranée a constitué le dossier d'éligibilité de cette opération afin de le présenter en commission nationale le 4 octobre 2022. Les études de calibrage à réaliser pour finaliser le financement du déficit opérationnel sont estimées à 38 750 euros hors taxes, soit 46 512 euros TTC. La subvention demandée porte sur 70% du montant TTC, soit 32 558 euros. Voilà, il est ainsi proposé au conseil d'administration d'approuver le principe de recomposition de l'îlot conventionnel Huguet, de valider le dossier de demande d'éligibilité au dispositif RHI, de valider le montant prévisionnel des études s'élevant à 38 761 euros hors taxe, soit 46 512 euros TTC, de solliciter auprès de l'ANA les aides au taux maximum de 70% pour le financement des études et de démolition, de s'engager sur le financement du reste à charge de l'opération et d'autoriser le dépôt de ce dossier auprès des services de l'ANA. Donc, en annexe, vous avez le périmètre donc, du quartier prioritaire de la ville qui est rappelé, l'éligibilité du dispositif RHI et le descriptif des îlots repérés avec les immeubles concernés sur le périmètre.
Donc, c'est un dossier dont on vous parle régulièrement. Notre achat a été bloqué par la banque parce que les propriétaires précédents n'avaient pas fini de rembourser leurs prêts. Donc il a fallu attendre qu'ils aient un nouveau prêt pour pouvoir rembourser le premier, ce qui est en bonne voie. Donc on va enfin pouvoir être propriétaire de cet immeuble. Il n'y a qu'une commission nationale par an, donc on ne voulait surtout pas la louper. C'est pour ça qu'on a constitué ce dossier et qu'on vous le présente aujourd'hui. Sinon, ça nous repoussera l'année prochaine. Et je rappelle que le danger est majeur pour cet immeuble qui peut s'effondrer à n'importe quel moment. Voilà, et bien entendu, pour après la remise en forme de la place du conventionnel Huguet, on a quelques idées et il y aura une concertation publique pour proposer nos projets et les faire valider par les habitants. Est-ce que vous avez des questions sur ce projet que vous commencez à bien connaître? Non? Bien, y a-t-il des oppositions à ce qui vous est proposé, des abstentions? Merci, Monsieur Cantarin, le RIFSEP.
Alors, avant de vous présenter mes délibérations, et pour mon dernier conseil municipal en tant qu'adjoint RH, permettez-moi de dire quelques mots. Je tenais simplement à remercier l'ensemble des personnes que j'ai pu croiser sur ma route pour mener à bien les projets RH qui m'ont été confiés. Je pense bien sûr à l'ensemble de l'équipe municipale, majoritaire et de l'opposition. Je pense à Madame la directrice générale des services, à la directrice des ressources humaines et son équipe, à la directrice du CCS et son équipe, aux directeurs fonctionnels, au personnel d'encadrement, aux organisations syndicales et à l'ensemble des services. C'est ensemble que nous avons pu porter ces projets et ce fut pour moi une riche expérience humaine. Je crois qu'on apprend toujours des uns et des autres, et grâce à vous, j'ai beaucoup appris, et je vous en remercie.
Tu t'en tireras pas si bien, hein.
Donc, concernant la mise en place donc, du RIFSEP, Donc, régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. Donc là, il s'agit de répondre à une obligation réglementaire, puisque le RIFSEP a été introduit dans la fonction publique territoriale en 2017. Donc les propositions qui sont formulées dans la présente délibération sont issues d'un travail mené depuis le début de l'année 2022. Et conformément aux engagements pris, une démarche participative a été mise en œuvre avec des réunions du groupe de travail issues du comité technique. Et donc effectivement, le groupe de travail s'est réuni de janvier jusqu'à août. Et nous avons décidé d'arrêter les négociations, puisqu'effectivement, nous, cette année, il y a les élections professionnelles le 8 décembre. Et donc, effectivement, par respect pour la campagne électorale, nous avons décidé de stopper les échanges fin août. Considérant que le RIFSEP comprend deux parts, donc la première part est ce qu'on appelle l'IFSE, l'indemnité de fonction, de suggestion et d'expertise. Donc cette part est liée au niveau de responsabilité et d'expertise du poste et prenant en compte l'expérience professionnelle de l'agent. Et ensuite, il y a la deuxième part, le CIA, le complément indemnitaire annuel. C'est une part qui est liée à l'engagement professionnel et à la manière de servir de l'agent. Donc il est proposé aux membres du conseil municipal d'instaurer le RIFSEP pour une application à partir du 1er janvier 2023 selon les modalités exposées ci-après. En premier lieu, concernant les bénéficiaires, le présent régime indemnitaire est attribué aux fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps plein, à temps complet ou à temps partiel, aux agents contractuels de droit public, sans condition d'ancienneté, à l'exception des contrats liés à l'accroissement temporaire d'activité, où là, le contrat doit être supérieur à 2 mois, voilà, pour pouvoir verser l'IFSE. Mais c'est vrai que dans l'esprit, pour nous, un contractuel qui va remplacer un fonctionnaire, bah pour nous, il était légitime de lui verser l'IFSE, de ne pas faire de différence. Ensuite, concernant la définition des groupes de fonctions, puisque le premier travail a été de définir des groupes de fonctions par catégorie, puisque dans la fonction publique hospitalière, on va retrouver 3 catégories professionnelles.
Territoriale.
Ah, décidément, ça me manque. On va retrouver donc 3 catégories professionnelles, donc la catégorie A, la catégorie B et la catégorie C. Et donc effectivement, le premier travail a été d'identifier donc des groupes de fonctions par catégorie. Et donc je suppose que vous avez pu le voir dans le tableau qui est annexé à la présente délibération. Donc pour la catégorie A, nous avons identifié 3 groupes de fonctions, pour la catégorie B, 3 groupes de fonctions également, et pour la catégorie C, 2 groupes de fonctions. Donc le montant de l'IFSE est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions occupées par les agents relevant d'un même cadre d'emploi. Puisqu'effectivement, il a fallu coter l'ensemble des postes de la collectivité. Le RIFSEP n'est pas lié à un agent, n'est pas lié à un grade, mais est lié à un poste. Donc chaque cadre d'emploi de la collectivité est réparti en différents groupes de fonctions selon des critères professionnels. Les fonctions d'un cadre d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels liés en premier lieu aux fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception. Et donc là, effectivement, nous sommes venus intégrer 4 indicateurs pour évaluer ce premier critère. En deuxième lieu, la technicité, l'expertise ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions. Donc là également, 4 indicateurs pour évaluer ce critère. Dernière thématique liée aux suggestions particulières ou le degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. Et donc là, nous sommes venus identifier 4 critères. Donc ce sont des critères qui ont été négociés avec les organisations syndicales, puisque il y aurait pu y avoir moins de critères, mais aussi on aurait pu en mettre davantage. Voilà. Mais nous sommes restés sur 4 critères par thématique. Les plafonds. Donc les montants minimum et maximum annuels donc de l'IFSE et du CIA sont déterminés selon des groupes de fonctions, comme indiqué dans le tableau ci-annexé à la présente délibération. La somme des deux parts doit respecter le plafond global applicable aux agents de l'État, puisqu'effectivement nous n'avions aucune référence au sein de la collectivité, ni aucune matière pour déterminer les plafonds maximums. Donc nous avons simplement repris ceux fixés dans la fonction publique de l'État. Conformément aux engagements pris par la collectivité, les montants minimums inscrits dans le tableau ci-annexé correspondent au régime indemnitaire minimum du groupe de fonctions versé précédemment, puisqu'effectivement nous avons voulu garantir à ce qu'aucun agent ne perde au niveau du régime indemnitaire. Voilà, ça a été une volonté qui a été affichée. On garantit le régime indemnitaire à chaque agent. Une réévaluation des montants minimums sera étudiée chaque année au regard des capacités financières. Concernant les critères d'attribution et modalités de réexamen, pour l'IFSE, donc, l'attribution est individuelle et elle est décidée par l'autorité territoriale. Donc chaque agent aura bien évidemment un arrêté pour le versement de l'IFSE. Le montant individuel de l'IFSE sera modulé par la prise en compte de l'expérience professionnelle selon les critères suivants: le parcours professionnel de l'agent avant l'arrivée sur son poste, les formations suivies, la connaissance de l'environnement du travail. Le montant d'IFSE fera l'objet d'un réexamen en cas de changement de fonction, en cas de changement de grade suite à une promotion, tous les 4 ans à l'absence de changement de fonction ou de grade et au vu de l'expérience professionnelle acquise par l'agent. Pour le CIA, complément indemnitaire annuel, l'attribution est également individuelle et décidée par l'autorité territoriale. Sur la base du rattachement des agents à un groupe de fonctions permettant l'attribution de l'IFSE, l'autorité territoriale attribue individuellement à chaque agent un montant de CIA compris entre 0 et 100% du plafond individuel figurant dans le tableau annexé. Et donc, dans le tableau annexé, le montant plafond est de 50 euros. Ce coefficient d'attribution individuelle est déterminé annuellement en fonction de la valeur professionnelle et de l'investissement de l'agent, apprécié lors de l'entretien professionnel et de formation qui a lieu chaque année sur la période de mars à mai. La périodicité de versement, donc l'IFSE, l'indemnité de fonction, de sujétion et d'expertise, sera versée mensuellement. Le CIA, le complément indemnitaire annuel, sera versé annuellement au mois de juin, donc à l'issue des entretiens professionnels. Modulation du montant versé en cas d'indisponibilité physique. Pour la part IFSE et CIA, donc là on a repris l'application des règles de la fonction publique de l'État. Donc concernant la maladie ordinaire, accident de service, maladie professionnelle, maternité, paternité, adoption, maintien en suivant le sort du traitement. Donc là, par exemple, pendant 90, si je suis absent pendant 90 jours, les 90 premiers jours, on maintient le salaire et ensuite on passe à demi-traitement à compter du 91e jour. Concernant le congé longue maladie, congé longue durée, grave maladie, là, on suspend la part IFSE et la part CIA. Modulation du montant versé en cas de temps partiel thérapeutique. Puisqu'effectivement, un agent peut exercer à temps partiel thérapeutique. Donc, le temps partiel thérapeutique va de 50 jusqu'à 90%. Et donc là, la part IFSE et le CIA sera proratisée en fonction de la quotité travaillée. Puisque je rappelle que lorsque nous sommes à temps partiel thérapeutique, on maintient le traitement de base indiciaire. Par contre, le régime indemnitaire, là, sera proratisé en fonction de la quotité travaillée. Modulation du montant versé en cas de période de préparation au reclassement. Donc là, la part IFSE et CIA sera suspendue pendant cette période. Le cumul. L'IFSE et le CIA sont exclusifs de tout autre régime indemnitaire de même nature, c'est-à-dire celles liées aux fonctions. Donc il n'y aura pas de cumul possible. Maintien à titre individuel. Le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu est conservé au titre de l'IFSE jusqu'à la date du prochain changement de fonction de l'agent. pour juste une précision complémentaire, donc cette délibération a été présentée en commission RH donc du 13 septembre. Cette délibération a été soumise pour avis au comité technique du 14 septembre et du 22 septembre. Donc simplement pour vous communiquer l'avis des organisations syndicales qui se sont prononcées contre. Voilà, avis défavorable sur le projet de délibération du RIFSEP. Alors, pas avis défavorable concernant les critères, mais concernant l'absence de lisibilité, puisque la demande des organisations syndicales, c'était d'avoir un horizon et avec une enveloppe connue que l'on pouvait consacrer sur les années à venir. Donc sur les années 2023, 2024, 2025. Et donc effectivement, le seul critère qui a fait qu'ils se sont prononcés contre, ça a été qu'on n'a pas été en capacité de pouvoir leur communiquer un montant dédié pour les années à venir concernant le RIFSEP.
Voilà, moi je souligne quand même que l'IFSE suit l'avis du traitement et que beaucoup d'autres collectivités ne l'ont pas appliqué sur les 90 jours de maladie ordinaire. Donc là, c'est quand même quelque chose que la ville de Guéret a proposé et qui est notable. Après, si tu permets, sur cette lisibilité financière, bon, je comprends la demande des organisations syndicales, mais on en a nous-mêmes aucune. Je rappelle que les points d'indice, l'augmentation des points d'indice, c'est 340 000 euros par an pour la ville de Guéret. On a eu en plus les reclassements indiciaires. Actuellement, on en a pour 40 000 euros. On est dans l'incapacité aujourd'hui de dire quelle aide de l'État va pouvoir venir nous aider un petit peu sur l'augmentation du point d'indice. On a l'assurance que par la loi de finances qu'on sera aidé sur le dernier semestre 2022. On doit logiquement rentrer dans les critères qui sont quand même aussi des critères qui sont étroits, restrictifs. Donc à première vue, on devrait rentrer dans les critères. Par contre, on n'a aucune assurance pour 2023. Donc, si on n'a aucun soutien de l'État, on va devoir assumer les salaires en faisant des sacrifices sur autre chose. Et donc, on n'a aucune lisibilité pour s'engager sur des enveloppes pour l'évaluation du RIFSEP sur les 5 ans à venir. Ça serait suicidaire et ça serait malhonnête de s'engager sur des choses pour lesquelles on n'a pas de visibilité. Voilà. Donc, bon, c'est l'explication qu'on a donnée aux organisations syndicales qui nous ont bien dit que le dialogue social existait et que sur le fond du travail du RIFSEP, elles avaient contribué et qu'elles le validaient. La commission RH l'a aussi validé. Par contre, elle souhaitait marquer son opposition dans la mesure où aucune enveloppe ne pouvait leur être déterminée.
La seule enveloppe, effectivement, qu'on a pu indiquer, c'est que ce travail était réalisé et qu'effectivement, on allait travailler sur une enveloppe constante.
Puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'aide de l'État, elle est calculée sur notre taux d'épargne brute. Ce taux d'épargne brute, on ne le connaîtra que quand on aura notre compte administratif 2022, c'est-à-dire en 2023. Donc on va leur donner nos chiffres et à l'issue, ils nous diront si on est éligible ou pas à l'aide pour 2022. Ça veut dire qu'on a déjà un an dans la vue. On aura l'aide un an après, plus d'un an après avoir augmenté le point d'indice. Donc il est absolument impossible de dire où on va en matière de gestion de la masse budgétaire sur les années à venir. Voilà. 10 millions de masse budgétaire quand même et 540 000 euros de primes. Donc ce sont des chiffres qu'il faut manier avec une grande précaution. Sylvie.
Oui, j'entends bien la notion de précaution et je salue aussi le travail qui a été effectué au niveau des ressources humaines, notamment par l'équipe de Jean-Baptiste. Ceci dit, un constat est évident, on ne peut pas s'engager effectivement peut-être sur ces masses budgétaires, tout simplement parce que c'est les salariés qui font la variable d'ajustement des budgets. et que il y a, vous l'avez très bien souligné l'un et l'autre, on attend toujours peut-être une aide de quelque part qui ne viendra ou qui ne viendra pas, qui risque surtout de ne pas venir. Je comprends votre frilosité, je ne l'approuve pas, puisque moi je me place du côté des salariés qui eux souhaiteraient avoir des engagements fermes, bien sûr.
Est-ce qu'il y a d'autres remarques ?
Oui, ce sont des remarques qui ne concernent pas le travail de Jean-Baptiste ni la position de Madame le maire, mais ça concerne la politique nationale. Cette histoire de RIFSEP, ces histoires de primes, d'indemnités, etc., c'est la négation même du statut de la fonction publique. Qu'on parle de la fonction publique territoriale, nationale ou hospitalière. Ces primes, c'est distribué non pas égalitairement, mais selon des quotas, selon des choses qui sont assez obscures. Donc c'est tout le système complet qui est à revoir. C'est évidemment pas, je vais voter contre, mais c'est pas contre le travail fait sur place, c'est contre une politique nationale qui nous renvoie à des subventions ou à des aides ou à des compléments de budget qui ne viendront pas. Hein, comme je disais en aparté, les promesses électorales n'engagent que ceux qui les croient. Jamais c'est compensé au centime près et jamais c'est compensé dans la durée surtout. Donc peut-être, Marie-Françoise disait, sur un semestre, on peut peut-être compter dessus, mais ça ira jamais plus loin. Donc moi, c'est un vote contre une politique nationale et pas contre le travail fait. Et je sais que c'est comment il a été fait dans un bon esprit. Voilà, merci.
Alors notre engagement, c'était qu'aucun agent ne perde son régime indemnitaire, à minima, et puis aussi que la RH ne soit justement pas la variable d'ajustement de nos budgets et qu'elle ne soit pas amputée par le fait qu'on va se retrouver en grande difficulté financière. Voilà, c'est les deux seuls engagements qu'on a pu prendre et qu'on tiendra. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention ? Oui,
Philippe. Pas une demande d'intervention, mais juste une observation. Enfin voilà, je donne mon point de vue par rapport à ça. J'aurais souhaité que le montant maximum destiné à récompenser l'engagement d'un certain nombre d'agents, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais dans la fonction publique, comme partout ailleurs, il y a des agents qui s'engagent plus que d'autres, soit supérieur à 50 euros par an, parce que 50 euros par an, c'est même pas 5 euros par mois. On peut pas dire que ça serve véritablement d'éléments très moteurs ou très motivants pour les agents. Voilà. Et je comprends toute la difficulté, évidemment, de la négociation. Hein, voilà.
Non, mais tu as tout à fait raison. L'explication de ces 50 euros, c'est en fait ce qui nous est resté quand on a appliqué la législation. Donc, en appliquant les critères qui vous ont été définis, on gagnait ces 50 euros qu'on a remis dans la balance pour pouvoir donner une petite chose. Mais il est bien évident que si on peut faire plus, on l'étudiera et on en parlera. Mais ces 50 euros, c'était la disponibilité qu'on a aujourd'hui ententée pour pouvoir le remettre dans la balance sur RIFSEP. Au-delà, eh bien, on creuse encore notre enveloppe RH qui est arrivée actuellement au bout de ce qu'on pouvait faire. Voilà. Donc on était les premiers à dire c'est peu. C'est ridicule, on le partage. Mais voilà, on a pu remettre ça dans la balance, mais au jour d'aujourd'hui, c'est la seule chose qu'on peut faire en attendant de voir comment on va gérer cette masse budgétaire dans les années à venir. Voilà. Oui, François.
Oui, alors moi je loue le travail de concertation qui est fait depuis qu'on est arrivé avec l'ensemble des personnels et les organisations syndicales. Néanmoins, concernant le RIFSEP, je l'ai vu arriver dans la fonction publique d'État, mais contrairement à ce que vous dites, monsieur Delettre, le RIFSEP n'a motivé personne et a fait que des jaloux et des suspicieux. Et dans ce cadre-là, rien que déjà pour ça, je trouve que de proposer une individuation du travail, alors que le travail est un rapport collectif à son employeur, je trouve, moi rien que pour ça, je m'abstiendrai sur le vote. Parce que je trouve que c'est une mauvaise graine qu'on est en train de planter dans la fonction publique.
Bien, on répond à une norme réglementaire qui doit s'appliquer au 1er
janvier. Je reconnais tout à fait que la loi doit s'appliquer.
Voilà, je pense a été travaillée au plus près des agents pour en tirer le maximum, essayer de rendre les choses transparentes aussi, parce que le système des primes et des reconnaissances, c'est toujours tout sauf transparent. Donc on a essayé de mettre des critères de transparence. On a fait au mieux, mais... bien entendu, on ne vous dit pas que la manœuvre nous a emballés et qu'on y adhère à 100%. Après, on est aussi là pour mettre en musique les règlements et c'est ce qu'on a essayé de faire au mieux. Voilà. Mais je comprends les réticences des uns et des autres que beaucoup d'entre nous ont partagées. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur ce RIFSEP ? Si tu peux finir, allez. Oh ben si, c'est ta dernière délibération. Vas-y.
Laissez-moi aller jusqu'au bout.
Vas-y.
Il n'y a plus qu'un paragraphe. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal d'instaurer l'IFSE dans les conditions indiquées ci-dessus, d'instaurer le CIA dans les conditions indiquées ci-dessus, de prévoir le maintien aux bénéficiaires concernés à titre individuel de leur montant antérieur plus élevé. Merci.
Bien, y a-t-il des oppositions ? Donc 5. Des abstentions. Donc avec les pouvoirs, ça fait 5, 6, 7 abstentions. Et ben, les votes contre 5, Thierry, plus vos 4. On recommence ? Alors les votes contre. 5. Les abstentions, parce qu'il y a deux pouvoirs là-bas. Ça fait 5. 6, 7.
Laissez le bras, Michel.
Non. 7 abstentions. Alors, les abstentions, donc, Monsieur Dubois, Monsieur Lascou, Madame Maury, s'il vous plaît. Monsieur Dubois, Lascou, Madame Maury, avec leur pouvoir. Leurs deux pouvoirs, ça fait 5. Monsieur Vallès et Madame Aupetit. C'est ça, tu t'es abstenu, Bernadette ? C'est bon ? Merci à vous. Modification du tableau des effectifs.
Alors effectivement, création, suppression au 1er octobre, 31 décembre et 1er janvier 2023, puisqu'effectivement, 9 agents de la collectivité vont pouvoir bénéficier d'un avancement de grade. Et donc effectivement, on vient créer, supprimer le grade, et supprimer le grade initial. Nous avons également 2 agents lauréats de concours, donc suppression du poste initial et création de l'emploi sur le grade de nomination. Et nous avons 2 agents non titulaires qui sont nommés. Donc autant de création que de suppression, donc pas de poste complémentaire concernant cette modification du tableau des effectifs.
Est-ce que vous avez des questions ? Des oppositions ? Des abstentions ? Merci. Nouvelle modification du tableau.
Alors celle-ci concerne les recrutements en cours. Donc il est proposé de créer, donc au 1er décembre 2022, pour le poste de gestionnaire de la commande publique, 3 emplois. Pour le poste d'agent de l'état civil, 2 emplois. Et donc effectivement, en fonction du grade de recrutement, on viendra supprimer les autres emplois.
Des questions ?
Il est également proposé
opposition, abstention, merci.
Mais non, mais c'est dans la délibération, là, c'était les créations, mais on vient également supprimer. Voilà.
Oui, la suppression liée aux créations.
Voilà. Il y a de supprimer pour le poste de chef du service comptabilité 3 emplois, et pour le poste d'assistant de gestion administrative et comptable, 2 emplois. Voilà. Donc on a une délibération qui se présente avec 5 créations et 5 suppressions.
Des oppositions, des abstentions. Merci. Modification du tableau des effectifs, 3e tome.
Au 1er janvier 2023, donc suite aux offres d'emploi publiées pendant l'été à la direction éducation jeunesse, des agents ont été affectés. Et il y a également été procédé au reclassement de 2 agents inaptes à leur poste. et afin de permettre leur nomination stagiaire des agents contractuels et de régulariser la situation des agents reclassés, il est nécessaire de modifier le tableau des effectifs par la création de 6 emplois et la suppression de 6 emplois. Donc aucun poste supplémentaire de créé.
Moi, je voudrais souligner la réactivité des ressources humaines qui suppriment immédiatement et qui a un suivi extrêmement rigoureux. Ouais. Il y a des collectivités où on supprime une fois par an et du coup, on n'y voit plus vraiment très clair.
Mais effectivement, le tableau des effectifs est vraiment très bien suivi par le service des RH. Et je pense que vous avez pu constater qu'à chaque conseil municipal, il y a toujours une délibération qui concerne le tableau des effectifs, mais ça permet aussi derrière un suivi des ETP.
Bien, y a-t-il des questions sur ce rapport? Des oppositions? Des abstentions? Merci. Donc on va passer à notre fameux rapport sur l'unité de méthanisation. Alors, je le retrouve mon rapport.
Tu l'as?
Oui. C'est toi. Vas-y.
Oui. Donc bon, je vais en substance, puisque nous avons eu la présentation. Et donc la consultation publique s'achèvera le 17 octobre prochain et en application des dispositions de l'article R512-46-11 du Code de l'environnement, le conseil municipal est appelé à donner son avis. Donc, il est donc proposé au conseil municipal de donner son avis sur la demande qui a été proposée sur le projet d'implantation d'une usine de méthanisation sur la commune de Guéry. L'avis favorable, pas d'avis.
Oui, ben, l'avis est favorable. Ça peut être que favorable ou défavorable, on ne peut pas avoir. Pas on votera normalement. L'expression est libre, Madame Bourdier.
Nous voterons contre ce projet. Nous voterons contre ce projet et nous vous engageons fortement à en faire de même. Pour les raisons suivantes. J'ai rajouté un point. Une présentation tendancieuse au conseil municipal avec des évaluations de volume, des évaluations des risques et des nuisances qui sont fort peu crédibles. Deuxièmement, la méthanisation est un processus de production d'énergie renouvelable très contesté, et notamment par les riverains qui le vivent au quotidien, nos concitoyens. Notre responsabilité est donc de nous positionner de leur côté. Troisièmement, nous notons une incohérence de plus en plus insupportable entre un schéma local des énergies aux ordres de l'État et de la région, et par ailleurs la nécessité pour nous de préserver notre patrimoine écologique et naturel. Autrement dit, d'un côté on dépense pour promouvoir notre tourisme et notre nature, et de l'autre côté on la menace. Pour finir, préserver l'avenir de notre planète, c'est tout à fait notre objectif aussi. Mais c'est d'abord commencer par préserver notre propre environnement. Il vaudrait mieux diminuer drastiquement notre consommation d'énergie plutôt que d'avoir pour objectif d'en produire autant que l'on en consomme.
Merci. Merci Madame Bourdier. Y a-t-il d'autres interventions ? J'aimerais bien que les collègues soient revenus pour voter quand même. C'est un sujet important. Ça me gêne beaucoup que tout le monde soit parti. Non, pas tout le monde, mais je veux dire, c'est quand même... Il y a des sujets qui sont... Parce que Benoît... Oui, Claire a le pouvoir d'Éric Correa, Benoît a celui de Marilyn.
Tant qu'on a puisqu'on a deux minutes le temps qu'ils arrivent, j'avais une question, moi, sur le financement de ce projet. Et est-ce que la commune a été sollicitée? Est-ce qu'on sait si l'aglo a été sollicité?
Non.
Est-ce qu'il y a de l'argent public là-dedans, à part celui d'Engie?
sur les cendres de l'ancien service public.
Ils nous ont parlé de 8 millions d'euros, mais on n'a pas été sollicité, et la GLO n'a pas été non plus.
Il se paye après, puis je pense qu'il y aura quand même les frais de voirie, les frais d'approche et les frais pour permettre aux véhicules et à tout ce monde-là d'arriver dans de bonnes conditions. Parce que les véhicules sont lourds et démolissent les voiries.
C'est l'aglo, c'est la zone d'activité de l'aglo. Je pense que. C'est vrai qu'il nous manque des éléments importants.
Moi, ce qui me dérange fortement, et je rejoins Sylvie là-dessus, c'est qu'on part encore sur une idée du faire et de construire des engins, de construire des bâtiments, de construire des tuyaux, de poser des choses techniquement pour régler des problèmes qui sont de l'ordre de l'intelligence, dans le sens où il n'y a pas de politique de restriction d'utilisation du gaz, il n'y a pas de politique de restriction de l'usage de l'eau, il n'y a pas de politique globale d'utilisation des énergies et du renouvelable. Et il faudrait peut-être d'abord s'appliquer à voir comment utiliser la ressource existante avant de s'inventer des tuyaux et des usines un peu partout sur le territoire. Et je pense au-delà du gaz. Non, je pense aux usines à eau en ce moment.
Oui, puis il y a une enquête publique en cours. Peut-être aurait-il été pertinent aussi d'attendre qu'elle fût conclue avant de donner un avis de la ville de Guéret. On a peut-être un peu de
temps. Jolie participation.
Bon, la seule solution qu'on aurait, c'est de convoquer un conseil municipal extraordinaire avec cette unique question. Ça nous laisse un petit délai de réflexion et ça nous laisse éventuellement la possibilité d'échanger avec des associations éventuelles. On a jusqu'au 21 octobre. Donc ça...
Pardon, au 31 octobre.
Oui, mais après, il faut envoyer la décision.
Oui. On a jusqu'au 31 octobre.
On a jusqu'à la fin du mois d'octobre.
Donner l'avis sur le projet.
Alors, excusez-moi, moi, j'étais pas là au début de la présentation. Je voudrais juste savoir si on avait ces éléments-là, à savoir en termes de postes à pourvoir au niveau de cette usine d'emploi.
Deux à trois. Après, ils insistaient beaucoup sur le travail que ça allait donner en périphérie aux entreprises locales pour construire et voilà. Mais deux à trois.
Et les routes à refaire.
Comment ?
L'endroit, le problème, pour rappel, le conseil communautaire a voté la cession de la parcelle sur le projet de cette usine.
Donc on ne peut pas remettre en cause le choix de l'endroit.
La seule chose, c'est donner un avis, mais favorable ou défavorable.
J'avais une question.
On a jusqu'au 31 octobre. Mais la loi nous donne jusqu'au 31 octobre pour donner l'avis à la préfecture suite à l'enquête.
Moi, j'avais une petite question.
Il y a permis de construire, de toute façon.
Juste pour qu'on puisse un peu comparer, est-ce qu'on sait déjà combien il y a d'usines de méthanisation en Creuse ? Et est-ce qu'elles se produisent ? Parce qu'il y en a partout dans la campagne. Alors certes, à côté de... Il y en a quand même... Ah bah oui. Oui, et ben voilà. Et ben oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a quand même partout sur le territoire. Ça gêne pas au niveau des nuisances olfactives ou autres. Là, c'est à une échelle beaucoup plus grosse. Mais il y en a déjà qui sont partout dans nos petits villages et ça gêne pas plus les habitants que ça, quoi.
La taille est la même. Les installations de méthanisation agricole sont sur le d'exploitation en général. Donc il n'y a pas tous ces transports. Et l'épandage se fait sur le lieu de l'exploitation. Alors que là, dans le cas précis, l'épandage peut se faire à des kilomètres de l'usine. Donc il y a une question d'échelle qui est complètement différente. Par contre, je ne connais pas la réponse à ta question sur le nombre. Combien il y a de petites unités de... Ça, c'est, je veux dire, à la limite, c'est combien il y a de fosses septiques. Hein. C'est presque pareil. Hein. Pour les exploitations agricoles, c'est... Voilà.
le problème même, y compris des exploitations agricoles qui ont installé des méthaniseurs, c'est que pour certaines, elles n'ont même pas réussi elles-mêmes à les alimenter suffisamment. Elles ont été obligées de se mettre en production pour, je ne parle pas des très grosses qui ont été carrément montées exprès pour faire produire, hein. C'est encore pire. Mais même localement, des gens de bonne foi qui ont monté des usines de méthanisation, des unités de méthanisation petites, très petites, pour des petites exploitations, n'ont pas réussi à les alimenter suffisamment et donc ont commencé à produire de manière peu vertueuse pour les remplir.
On va irriguer des céréales, non pas pour nourrir, mais pour alimenter l'usine de
méthanisation. Il a dit non, le monsieur.
Oui,
il a dit non. Il a dit non.
Est-ce que vous êtes prêt à donner un avis maintenant? Est-ce que dans 15 jours, on sera plus avancé?
C'est la question,
parce que de toute façon, fin octobre, il faut qu'on ait...
Rejoindre Bernadette, juste une question. L'enquête publique se termine quand?
Le 17 octobre.
Et on a 15 jours au plus tard, après la fin de l'enquête publique, pour donner...
Soit le 31 octobre. Il faut qu'au 31 octobre, on ait répondu. Ce qui veut dire que si on ne donne pas d'avis ce soir, il faut qu'après le 20 octobre, on refasse un conseil municipal extraordinaire uniquement sur cette thématique.
Non,
moi, ça ne me pose pas de problème.
Il faut que tout le monde soit d'accord.
Voilà.
Après, on peut juste se poser la question de savoir... La question de savoir que si on refuse les éoliennes, si on refuse la méthanisation, si on refuse tout ça, on accepte alors forcément de continuer à vivre sous le joug des énergies fossiles et de pays qui vont nous tenir sous leur joug encore combien de temps? C'est tout.
Je suis assez d'accord avec toi, Patrick. D'avoir sur les questions qui sont posées, la question que je pose, c'est est-ce que dans 15 jours, après le 17 octobre, on pourra changer d'avis ou pas, voilà, on sera plus éclairé. À un moment donné, voilà, si c'est le reporter pour le reporter.
Clairement, aujourd'hui, on a tous un niveau d'information qui va nous permettre, en âme et conscience, de prendre une décision. Enfin, chacun est capable de s'engager sur une décision, enfin, quand même.
Dire oui, dire non,
prendre le courage de se prononcer par rapport à ses opinions.
De toute façon, il faudra qu'on se prononce.
On pourrait même dire que c'est une opinion personnelle, je veux dire, en dehors d'un membre ou d'un collectif ou de choses comme ça. Là, c'est un peu chacun sa pensée personnelle sur ce que peut être pour nous une partie de l'écologie, même si ça rebute certaines personnes de le dire.
Alors, moi je comprends. Après, moi, ce qui vraiment.
Non, on n'en est pas loin.
C'est qu'on soit obligé de donner notre avis aujourd'hui, parce que vous le dites très bien, on a tous un avis très personnel là-dessus. Mais on n'est pas là pour faire avec notre avis personnel. Et justement, le fait qu'il y ait cette consultation publique qui est commencée là, le 19 septembre, bon, j'en avais pas entendu parler, mais. Et qui se finit le 17 octobre.
Mais quand je parle d'avis personnel, je veux dire autour de la table, tout le monde peut donner son avis personnel et c'est une majorité qui sortira de l'avis du conseil. Point. Vous êtes pas, enfin, je veux dire, personne n'est obligé de suivre comme un seul homme un avis donné. Chacun donne son avis et voilà. Point.
C'est pas ce qui est demandé. Ce qui était demandé, c'était juste est-ce que certains d'entre nous ont besoin de se considérer comme prêts à donner son avis, c'est le cas de certains, ou est-ce que certains ont besoin d'aller chercher un petit peu plus d'infos, c'est tout. C'est pas du tout de se dire on vote tous comme un seul homme. Je pense que sur ce dossier-là, ça sera pas le cas. Mais est-ce qu'on est prêt à donner un avis aujourd'hui? Est-ce que certains voudraient exploiter ce délai possible de 15 jours qui nous oblige à refaire un conseil municipal? Mais est-ce que certains ont besoin de ce délai-là? Est-ce qu'on aura plus d'éléments dans 15 jours?
Moi, les uns et les autres. Par rapport à ce que disait Gilles, je pense qu'effectivement, moi je suis assez indécis, comme beaucoup, pour ce type de projet. Et effectivement, j'aurais besoin de plus de temps, et puis aussi, surtout peut-être effectivement, d'entendre, dans un débat contradictoire, des associations, ou au moins une association représentante de la défense de l'environnement. Voilà. Et je ne prendrai pas les avis de cette association pour argent comptant. Je veux dire, d'un côté comme de l'autre, voilà, aussi bien du côté de la société que de cette association qui viendrait nous présenter d'autres éléments dans le débat, bon, bah, il y a des défenses d'intérêts à caractère entre guillemets personnel, mais j'ai pas le sentiment que pour le moment, alors, mais j'ai entendu hein, néanmoins d'ailleurs les arguments qui ont été évoqués par Monsieur Correa et qui m'ont semblé pertinents d'ailleurs, mais voilà, moi j'ai pas le sentiment qu'on ait été mis pour le moment en situation d'un débat contradictoire. Voilà.
Bien, est-ce que on s'entend tous pour refaire un conseil municipal avant fin octobre, et donc dans ce cas-là, votre souhait c'est qu'on invite une association à venir nous donner son opinion, c'est ça, pour avoir des... Oui, en conseil, avant le conseil, comme on l'a fait là avec la société. Oui, mais enfin, je veux dire le même jour, mais on ouvre le conseil après, oui. Ce que je veux dire, c'est qu'on va pas démultiplier les réunions, mais comme on l'a fait aujourd'hui, une information avant que le conseil débute. Est-ce qu'on part sur ce principe-là? Est-ce qu'il y a des oppositions à ce qu'on fasse ça? Non? Bon, donc on reconvoque un conseil. Oui, vous n'êtes pas d'accord. D'accord. Tout le monde autrement est d'accord pour qu'on se donne ce délai de 15 jours? Oui? Mais non, mais votez, oui ou non. Hein. Alors, qui n'est pas d'accord pour ce délai de 15 jours? Ben, sauf si une association peut venir nous... Ben, je ne le ferai pas de façon unilatérale, je suis désolée. Oui. Bien, donc, notre proposition, c'est de reporter la décision à un conseil municipal extraordinaire qui se tiendra donc avant la fin octobre, à laquelle il sera possible de convier une association, si vous en connaissez, qui veulent venir nous parler de leur... et qu'on puisse faire la part des choses. Voilà, donc on aura un conseil municipal extraordinaire avant la fin du mois d'octobre, juste sur ce sujet-là.
Donc, Madame le maire, à ce conseil municipal extraordinaire, sera donc une association viendra nous donner son avis sur le sujet. Pour enfin, si je comprends bien ce qu'ont demandé nos collègues.
Oui, ils demandent à ce qu'il y ait effectivement un complément, un contrepoids qui soit fait par rapport aux promoteurs qu'on a vu aujourd'hui. Après. Oui, comme ça, on aura aussi le compte-rendu de l'enquête publique et on pourra dire si les Guérétois ont participé, en plus on aura leur avis. Voilà, donc ça peut être un complément un peu intéressant. Voilà. Donc, je le soumets au vote, je pense qu'il y a des oppositions. Bon, donc on va faire comme ça. On avait une dernière délibération, Ludovic, sur le comité jumelage.
Oui, je me dépêche, je vois que certaines personnes ont déjà fait leur bagage. Le comité de jumelage de Guéret a déposé une demande de subvention exceptionnelle complémentaire à hauteur de 2700 euros dans le cadre du séjour trinational de jeunes des villes de Stein, Pouc et Guéret, qui a eu lieu cette année, du 6 au 13 août. L'organisation du séjour a été assurée par la ville de Guéret et le portage financier par le comité de jumelage. La somme engagée par le comité de jumelage concerne le transport aller-retour Guéret-Stein du groupe de 9 jeunes guérétois et des 9 jeunes guérétois et est financé comme suit. Participation des familles 900 euros, participation comité de jumelage 1067,60 euros, participation ville 2700 euros, compensé par une aide de OFAJ en provenance de Stein. Aussi, au vu de ce qui précède, il est proposé aux membres du conseil municipal de se prononcer favorablement, sur l'attribution du comité de jumelage d'une subvention exceptionnelle fixée à 2700 euros.
Est-ce voilà. qu'il y a des questions? Est-ce que Sylvie, tu veux nous
dire un petit mot? Je dirais juste que c'était la première manifestation donc, de reprise d'activité du jumelage avec l'Allemagne. Et c'était donc un déplacement de jeunes dans le cadre d'une rencontre trinationale avec des jeunes polonais qui plus est, qui risque de se poursuivre donc, dans les deux prochaines années. Et je suis très satisfaite à titre personnel déjà de cette reprise d'activité, du fait que le comité de jumelage nous a soutenus et nous a aidés et que nous sommes maintenant dans quelques semaines à Stein avec 5 élus, me semble-t-il, pour donc célébrer le 30e anniversaire des relations avec l'Allemagne et en même temps donc relancer toutes sortes d'activités si c'est possible. Voilà. Donc c'était un petit début, mais je crois que derrière il y a de belles promesses d'avenir dans un contexte international qui le nécessite. J'ai deux questions.
Bien, donc, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Y a-t-il des oppositions pour cette subvention? Des abstentions? Merci. On avait deux questions orales de Guéret Écologie Solidarité qui sont arrivées dimanche matin.
Oui.
Pas terrible au niveau du délai?
Oui. Oui, je peux. Enfin, une question. La première question, c'est pas vraiment une question, c'est juste une intervention parce qu'on m'a aussi sollicité pour la faire. C'est sur les actes d'incivilité qui sont répétés, qui créent beaucoup d'anxiété. Alors, c'est dans mon voisinage puisque j'ai été victime également. C'est sur la rue Jean Jaurès. Il y a eu beaucoup, beaucoup de soucis. Depuis décembre, moi je dirais que je suis un peu verni, j'ai que 8 pneus mon actif. Il y en a quand même beaucoup plus, 12, 15, 18 pneus. Et c'est vraiment un ras-le-bol complet. Et sur toute la rue, c'est vraiment compliqué. Tout l'été, ça a été les poubelles renversées, ça a été voilà, très, très compliqué. Donc voilà, je voulais juste insister un peu sur ce fait-là, parce que ça devient dangereux, parce qu'il y a un voisin qui, la dernière fois, a entendu, est sorti avec un marteau. Alors imaginez ce qui se passe quand il y a quelqu'un qui a un couteau, qui est en train de percer des pneus, et un voisin qui arrive avec un marteau. Imaginez la gravité de la chose. Donc voilà, je voulais en parler, parce que j'avais promis que j'interviendrai, j'en parlerai, si jamais vous pouvez essayer d'appuyer et puis d'insister sur cette anxiété.
Alors on sait que le commissariat mène l'enquête, et qu'il la mène sérieusement, qu'ils ont certains faisceaux d'indices à exploiter, donc j'espère que ça va aboutir. On s'était dit aussi qu'on mettrait certainement une caméra, puisque cette avenue est constamment ciblée. Si l'enquête aboutit, tant mieux. Si elle n'aboutit pas, l'idée, c'est de pouvoir y installer des caméras. Donc, notre problème avec les caméras, c'est qu'il nous manque des pièces venues de Chine et qu'on n'arrive pas à les... On en a deux qu'on avait réservées pour les bassins mobiles, parce qu'il faut les surveiller aussi. Comme nos bassins mobiles, du fait du manque d'eau, on ne va peut-être pas pouvoir les installer. Il faut qu'on voit si ça serait plus judicieux de... Peut-être, on verra. L'utiliser. Mais en tout cas, le fait de mettre des caméras avenue Jean Jaurès, c'est quelque chose qu'on a validé, sauf si l'enquête aboutit et que dans ce cas-là, mais c'est un vrai souci. On est d'accord.
Oui,
on a envoyé notre service de tranquillité publique après le dernier épisode pour essayer de faire un peu de porte-à-porte, pour essayer de tranquilliser un peu les gens, ou au moins les faire parler, pour les soulager un peu. Mais on sait bien que ce n'est pas une réponse.
Mais l'inquiétude qui est la tienne par rapport à ce que ça se termine mal si quelqu'un sort, ça a été relayé. Effectivement, tu l'as connu par le passé avec les incendies, et c'est le risque effectivement que ça dérape. Oui, tout à fait.
Alors j'ai rencontré la nouvelle procureure et je lui en ai parlé. Et elle m'a dit, je lui ai raconté s'il y avait des antécédents importants, mais elle était bien au courant de l'affaire et elle m'a dit qu'il poursuivait des pistes sérieuses.
Ok. Très bien. Très bien, merci. Notamment, on en reparlera. Oui, ça marche, oui. On en reparlera certainement aussi demain dans tout ce qui est circulation et tout. Parce que c'est vrai que c'est un artère aussi qui est assez compliqué en termes de circulation, avec une vraie rampe de lancement. C'est pour sortir de Guéret. Donc voilà, tout ça, c'est un petit peu un ras-le-bol général de la région Jaurès.
C'est certain. On comprend très bien.
et donc je poursuis. Donc là c'est vraiment une question. C'est surtout suite à. Excusez-moi s'il vous plaît. Voilà, c'est suite à des articles qui sont parus, enfin un article qui est paru dans La Montagne et des divers comment dire voilà, divers rumeurs sur la Rennes. Alors, je suis désolé, hein, on en a parlé récemment, c'est très bien que j'allais intervenir là-dessus. Voilà, différentes questions. Juste comment il se fait aujourd'hui que la mairie puisse intervenir dans une gestion financière privée, déjà, c'était une de premières questions. Est-ce que c'est lié justement à ce que le président fasse partie du conseil municipal? Est-ce que la mairie peut s'engager aujourd'hui à traiter de la même façon tous les problèmes financiers et tous les problèmes que pourraient avoir toutes les autres associations guérétoises? Et puis enfin, la dernière question, beaucoup plus souple, on va dire, c'est est-ce que vous avez planifié la réunion, le débriefing qui avait été promis aux riverains lors de la première réunion?
Alors, je suis désolée que la montagne soit partie, parce que c'est absolument scandaleux de mettre en face à face le Hard Mess comme étant la manifestation de Guéret contre la Checking Party étant la manifestation de l'agglo.
Loin de moi de penser ça, et on en a parlé.
Moi, je vais rectifier les choses pour tout le monde. C'est insupportable. Le Hard Mess, on n'y a pas mis un sou. On a mis la même chose que à la Checking Party, c'est-à-dire on a prêté le terrain, on a prêté du matériel et on a hébergé des techniciens, ce qu'on a fait pour le checking, et on a hébergé deux fois plus de techniciens gratuitement pour la checking que pour le Hard Mess. Donc les deux festivals ont été traités exactement de la même façon. Il n'y a pas de compétition ville contre agglo. Il y a deux festivals qui ont tous les deux le mérite d'exister et qui ont tous les deux été un bel événement et qu'on a soutenu de la même façon. La difficulté qu'il y a eu pour la ville de Guéret, qui en aucun cas ne soutient financièrement qui que ce soit, ne s'engage financièrement dans quoi que ce soit, la difficulté, c'est la mise en cause par un tiers, un food truck, de la ville de Guéret, tout simplement parce que quand je suis rentrée de vacances, ce food truck m'avait envoyé un mail en me disant « je n'arrive pas à joindre le président de l'association ADAS ». J'ai pris ce mail, je l'ai donné au président de l'association ADAS en disant « ce n'est pas le problème de la mairie. S'il faut que je serve de boîte aux lettres, je le donne, je ne vais pas le jeter. » Et ce monsieur attendait que je lui réponde et que je prenne parti devant mon silence, qui était peut-être maladroit, mais c'est au moins c'est ce que j'ai pensé devoir faire sur le moment. Il a inondé les réseaux sociaux en mettant en cause la ville. La ville qui, je le répète, a servi à un moment donné de lien entre les habitants et l'organisateur pour essayer que le dialogue se fasse et que chacun se comprenne. Et la ville qui s'est vue salir sur les réseaux sociaux pour une manifestation qu'elle n'a pas organisée, qui est une manifestation privée. Donc, devant ce problème, je me suis dit, on a deux solutions. Soit on continue à rester muet, à faire semblant de rien lire, à faire semblant de rien savoir. Soit on joue notre rôle, je pense, d'élu, en disant, eh bien, la ville est mise en cause dans un conflit entre tiers, on les met autour de la table pour qu'ils se parlent. Et puis aussi pour entendre ce qui est en train de se dire et pourquoi on est mis en cause. Et donc on a fait cette séance de médiation entre les organisateurs où on n'était que des médiateurs qui favorisent le dialogue et en aucun cas des parties prenantes. Les choses se sont dites, dont acte. Les choses se traitent entre personnes du privé et nous, on n'a aucune autre intervention. Alors bien entendu, on va nous dire, on a un élu qui est président d'une association. Oui, je pense que ce n'est pas le seul ici à faire partie d'une association ou à en être président. On peut organiser une manifestation et être élu sans que la ville soit forcément partie prenante dans l'organisation. Et je le redis, on n'a pas mis un sou. si on doit enlever de la vie publique tous les élus qui ont un mandat d'élu mais qui sont dans des associations, je pense qu'on n'aura plus personne dans les associations parce qu'on retrouve souvent les mêmes. Donc moi, ça ne me gêne pas foncièrement qu'un élu soit dans une association. Je le répète, il n'est pas le seul. Ce qui m'a gêné, c'est que la ville de Guéret, qui n'avait rien fait de plus qu'elle n'a fait pour la checking party, soit mise en cause et qu'en plus, on s'en serve pour opposer l'agglo à la ville de Guéret. Voilà. Donc très clairement, ce qu'on a donné au World Mess, on l'a donné à la checking, ni plus, ni moins. Et je suis désolée que M. Donzé soit parti, parce que je trouve que c'est insupportable. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question.
Oui, oui. Alors en fait, moi, j'ai jamais opposé l'un ou l'autre. J'ai jamais dit que la ville de Guéret avait donné quoi que ce soit. Et je suis complètement d'accord avec le fait que j'aurais bien aimé qu'il soit également là, parce qu'on a légitimement besoin d'explications quand on a la vue que de ces articles-là. Donc c'est pour ça que je vais poser ces questions-là. C'est vraiment pour savoir un petit peu. Et c'est important, je pense, de remettre l'église au milieu du village à un moment. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça dommage le départ de M. Donzé bien trop tôt ce soir. Pour pouvoir justement... ouais, c'est peut-être au hasard. Pour justifier ça. Juste une dernière précision. Merci pour tous ces éléments. Et je suis complètement d'accord avec vous sur le fait que les élus et les...
Je pense que tu as eu raison de la poser. Je pense qu'on se l'est tous posé. On se l'est posé, nous, dans le cadre de nos réunions de bureau municipal. Et c'était logique de la poser. Donc, il n'y a aucune ambiguïté, ah oui, oui. Aucun malaise pour y répondre.
Ah non, c'est important d'avoir la transparence, au moins, d'avoir les acteurs de ce moment-là et pas à travers la presse. Ça, c'est très dommage. Et alors, les réseaux sociaux, on n'en parle pas. C'est vraiment dégoûtant. C'est la raison pour laquelle, pour compléter, ce qui a pu se dire entre les différentes personnes lors de cette réunion, reste entre elles, voilà. Et ensuite, notre rôle après s'est arrêté là.
Non, parce que ça, en plus, ça rajoute un petit peu de... un petit peu d'eau au moulin et voilà. Mais par contre, la dernière question à laquelle vous n'avez pas répondu, c'est le débrief, parce que c'est un riverain qui m'a vraiment posé la question.
Absolument.
Et voilà, ce riverain-là m'a demandé vraiment, est-ce qu'on va avoir notre débrief?
Alors, cette réunion aura lieu. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on ait cette réunion avec une association des partenaires privés qui ont réglé leurs problèmes et qui sont en capacité de venir devant des habitants avec des choses qui soient stabilisées. Donc, moi, j'attends qu'on me dise, ça y est, les choses se sont stabilisées et on fera cette réunion publique. J'ai pas envie qu'en plus, cette réunion avec les habitants serve encore de détonateur. Donc, je laisse les organisateurs poser les choses et régulariser ce qu'ils ont à régulariser. Et ensuite, on fera, par le biais du conseil de quartier, comme on a fait la première réunion, une réunion de concertation avec les habitants. Ce que je peux dire sur le Hard Mess, c'est que j'ai reçu 5 plaintes en tout et pour tout. J'ai eu des habitants de Pomeille et de Fressange qui se sont étonnés très favorablement du fait qu'ils ont été beaucoup moins perturbés par le bruit qu'ils ne l'avaient pensé. Le bruit a perturbé des gens plus loin, à un endroit où on n'aurait pas pensé, vers le Peronceau, dans ces quartiers-là. Donc, voilà, c'est important de les entendre. Il y a eu peu de plaintes, mais il y en a eu. Et si on veut que ce festival revive l'année prochaine, il faut qu'on en tienne compte pour prendre des dispositions. Donc, ça aura lieu, mais moi, je veux que ça ait lieu dans un climat serein et que ce ne soit pas l'occasion pour des tierces personnes de relancer un débat qui, en tout cas, qui n'a pas lieu d'être ici, quoi. Voilà, donc ça aura lieu. On en prend l'engagement. Gilles ?
Non. D'insister très lourdement pour que cette réunion ait effectivement lieu et qu'elle ne s'oublie pas, parce que là, on va faire...
Absolument, elle ne sera pas oubliée.
Oui, elle ne sera pas oubliée. On en a d'ailleurs parlé au dernier conseil de quartier, notre quartier, enfin, conseil de quartier d'ouverture. Et donc, c'est ce que je vous avais dit, que voilà, les choses n'étaient pas encore fixées et que voilà.
Je pense que même pour l'association, je pense que c'est important parce que c'est justement pour pouvoir optimiser et améliorer. Je pense que c'est important aussi d'écouter les gens.
Bien sûr. Ben, je pense même qu'il serait bon aussi qu'à un moment donné, on ait une rencontre checking Hard Mess, parce que ça se situe sur la même période, il y a du matériel qui se prête de l'un à l'autre, il y a sûrement des préconisations en matière de circulation ou autre qui peuvent s'échanger. Enfin, je pense qu'il y a 2 beaux festivals sur le mois d'août ici, et je pense qu'il y a sûrement des choses à imaginer ensemble. Voilà.
Mais... Évidemment, mais ça peut se faire qu'entre les deux associations.
Absolument.
Mais il n'y a jamais eu de. Enfin, voilà, il faut vraiment arrêter sur, sur le terrain médiatique, il faut vraiment arrêter cette, à chaque fois cette opposition de. Il y a de la place pour tout le monde, je pense. Et, même si ça fait beaucoup de bruit, François, il y a de la place pour tout le monde.
Merci. Merci à tous. Bonne soirée.